Seigneur vous bénisse. Ce n'est plus jaune, c'est blanc. On est tout en blanc. Hein, Dieu vous bénisse pour tout le travail effectué. Nous allons prier. Père céleste, nous sommes heureux de nous réunir au nom de Jésus-Christ, parce que lorsque nous nous réunissons dans ces conditions, nous attendons à de riches bénédictions de ta part. Sois béni, sois loué. Nous sommes ici ce soir pour nous réjouir autour de ta parole. Nous voulons vraiment nous en imprégner et que vraiment ta présence soit ressentie dans chaque cœur. Que nous soyons comme les disciples d'Emmaüs. Ô Dieu, vraiment, que cette parole qui brûle les cœurs, ô Dieu, puisse nous parvenir. Cette parole qui restaure l'âme, nous en avons vraiment besoin. Ô, sois béni, sois loué. Pardonne-nous nos péchés. Nous comptons sur ta miséricorde pour cela. Et nous nous en remettons à toi pendant que nous nous attendons à ce que tu nous inspires ce qu'il faut dire et que tu nous aides à comprendre selon le sens que toi tu veux qu'il soit pris. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons demandé cela. Amen. Amen. Bien, Dieu vous bénisse. Comme il y a une répétition chorale tout à l'heure, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Juges. Livre des Juges, chapitre 16. Juges 16, verset 15 jusqu'à 20. Délila lui dit à Samson, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous aurons droit au sujet ce soir. Le sujet, c'est Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est ce qui fait deux Samson différents. Quand l'Éternel était en lui, agissait en lui, et quand l'Éternel s'est retiré de lui. Ça fait deux personnes différentes. Quand il s'est coupé les cheveux, il est devenu comme n'importe quel autre homme. Ça va? C'est ainsi qu'il le dit dans au verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Ça, c'était la condition pour que Dieu soit avec lui dans son combat contre les Philistins. Et c'est dans ce but-là que Dieu l'avait placé juge en Israël. Et la condition pour qu'il puisse aller de victoire en victoire, c'est qu'il ne rase pas sa tête. Et tant qu'il ne rasait pas sa tête, on pouvait mettre une porte d'airain devant lui, il avait la capacité de l'enlever. Un ours pouvait s'en prendre à lui, il avait la capacité de le terrasser. Ou un lion, il a frappé le lion de ses mains. Et pourtant, il n'était pas si costaud que ça. Mais la différence, c'était l'Éternel. Alors, et lui-même, il dit, si jamais je coupe les cheveux, ma force m'abandonnerait. Dans les psaumes, il y a des versets qui disent « L'Éternel est ma force ». Sa force, c'était l'Éternel. Et si il coupait les cheveux, eh ben, l'Éternel, qui était sa force, l'abandonnerait. Et une fois que l'Éternel l'abandonne, il devient comme tout autre homme. Ça, c'est pareil avec nous. Tant que le Seigneur est avec nous, nous sommes des chrétiens, hein, des chrétiens de foi. Si nous sommes des chrétiens de foi, nous allons de victoire en victoire. Ça, tant pis s'il y a des tempêtes, tant pis s'il y a des choses qui se passent, mais nous restons fermes, nous restons forts. C'est quand le Seigneur s'en va que nous faiblissons. Quand nous nous en éloignons, bien que celui qui s'éloigne, pourquoi ? Parce que les conditions qui sont pour qu'il soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon ce qu'il a dit, eh bien, si ces conditions-là ne sont plus réunies, il s'en va. C'est l'Éternel, donc, qui faisait la différence entre Israël et toutes les autres nations. Ce n'est pas que Israël était une nation forte, ce n'est pas qu'Israël était une nation imbattable, c'était l'Éternel qui faisait la différence. C'était Dieu. Et le frère dit, mettez Dieu de côté, et Israël était comme n'importe quelle autre nation. 1 Samuel 8, Israël a justement voulu être comme les autres nations. Et nous savons ce qui est arrivé, n'est-ce pas, plus tard, avec Goliath. 1 Samuel 8, verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Et une fois que lui ne régnait plus sur eux, il devenait comme les autres nations. Ça va? Gédéon était le plus petit dans la maison de son père. Tout le monde le sait. Sa famille était la plus pauvre en Manassé. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit devenu un vaillant héros, ce peureux qui se cachait pour moudre le grain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit devenu un grand vaillant, un vaillant héros? Eh bien, l'Éternel lui dit ceci dans Juges 6. Juges 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Allons, verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras, n'est-ce pas, Madian comme un seul homme. Et il allait battre Madian comme un seul homme, si on regarde le verset 14, avec la force qu'il avait. Sa force ne changeait pas, mais ce qui changeait la donne, c'était l'Éternel. L'Éternel lui dit, non, mais je serai avec toi. Cette fois-ci, je serai avec toi. Et comme je serai avec toi, les choses seront différentes. Et l'Église a tout intérêt à marcher de manière à ce que le Seigneur soit toujours avec elle. Nous avons intérêt à ce que nous marchions toujours de manière à ce que le Seigneur se plaise au milieu de nous. Amen. Et si jamais nous en arrivons à des situations où Dieu nous abandonne, eh bien, nous serons un rassemblement comme tous les autres rassemblements. De la même manière que des rassemblements politiques, des rassemblements de je ne sais pas quoi, des clubs du mardi ou du mercredi et de ces choses pareilles. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, cet endroit est un endroit où nous venons nous ressourcer. Nous ressourcer pas par le fait de nous, mais par le fait que la parole de Dieu est proclamée au milieu de nous. Par le fait que par la foi, nous pouvons recevoir cette parole et cette parole peut agir en nous agir comment? Agir, faire ce don pour laquelle Dieu l'aura inspiré. Et c'est lui qui fait la différence, puisque c'est lui qui fait la différence. Non, notre souci à nous est que Dieu soit toujours au milieu de nous. C'est cela notre souci. Et nous nous en tenons à cela. Pierre avait reçu les clés du royaume. Pierre, dans Matthieu 16, le Seigneur lui a donné les clés du royaume. Enfin, lui, en tout cas, jusque-là, il lui a promis. J'ai oublié ce machin. Matthieu 16, verset 16. Le Seigneur lui dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais Pierre, le même Pierre à qui on a promis, n'est-ce pas, les clés du royaume, Pierre, quand le Seigneur a été amené dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre, n'est-ce pas, a sombré devant, a renié le Seigneur devant une servante. Pierre a eu peur d'une servante qui était là, qui disait, mais tu étais avec lui. Dans Jean 18, verset 17, voilà. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. C'est le même Pierre qui, une fois à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend, physiquement, c'est le même Pierre, mais spirituellement, ce n'est plus la même personne. C'est devenu une personne complètement différente. Pierre ouvre la fenêtre, on se moque d'eux, il se fiche des moqueries, il dit, non, ils ne sont pas ivres. Ce n'est pas du vin doux. Nous ne sommes qu'à la troisième heure qu'il a dit, c'est quelque chose comme ça. Il dit, on n'a pas eu le temps de boire. À l'époque, il n'y avait pas de bistrot comme il y en a aujourd'hui, du matin, du soir au matin, jusqu'au lendemain matin. Non, il n'y en avait pas en Israël en tout cas. Il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait pas d'endroit où boire. On n'était qu'à la troisième heure. Il dit, non, non, ils ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est-à-dire 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que Joël a dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ces hommes sont remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont différents là aujourd'hui. Et vous également, et moi de même, nous sommes différents si le Saint-Esprit est là, si le Saint-Esprit premier est là. La chorale va répéter tantôt. Les répétitions sont différentes si elles sont faites en présence du Saint-Esprit. Les prédications sont données. Les prédications sont différentes si le Saint-Esprit y met sa main. Les auditions sont là. Les auditions sont différentes si l'Esprit nous aide. Ce que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Et c'est ça qui fait la différence. Une église sans le Saint-Esprit, ce n'est qu'un rassemblement de personnes. Mais ce qu'il faut à une véritable église, c'est bien le glorieux Saint-Esprit. Oui. Pierre, il a prêché à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu sur les Juifs. Pierre a prêché en Samarie, les Samaritains ont eu le Saint-Esprit dans Acte 8, n'est-ce pas? Il a prêché chez les gentils dans Acte 10. Eh bien, les gentils ont eu le Saint-Esprit parce que Dieu avait dit qu'ils auraient cela. Et c'est le même Pierre qui déclare, dans le passage sur lequel nous nous sommes attardés ces dernières semaines, dans 1 Pierre 9, d'un Pierre 2, pardon, dit, vous qui croyez, n'est-ce pas? Vous êtes différents. Vous n'êtes pas de la même trempe que ceux qui ne croient pas. Vous êtes différents. Amen. 1 Pierre 2. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes différents. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Une nation sainte, pourquoi? Parce que le saint est au milieu de vous. Si vous êtes saint, c'est parce que le saint est au milieu de vous. Vous n'avez en vous aucune sainteté. Sans le saint en nous, ben, nous ne sommes pas des saints. Les saints qui sont à Éphèse, c'est parce que le saint est au milieu d'eux. Les saints qui sont à Corinthe, c'est parce qu'ils sont saints, parce que le Seigneur est au milieu d'eux. Parce que si vous regardez comment ils vivaient, ça n'allait pas. Mais c'était des gens qui, lorsqu'ils prononçaient le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, ils le prononçaient par l'Esprit. Quand vous le prononcez par l'Esprit, vous êtes différent. Vous n'êtes pas le même homme. David chantait. David composait. David a fait ce qui était droit devant Dieu. Mais, bon, et le Seigneur même rend témoignage, le témoignage de David. Mais il ne rend pas le témoignage de David comme ça tout court. Non, lui, il parle de David animé par l'Esprit. Oui, dans Matthieu 22. Verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, ce n'est que par l'Esprit que vous l'appelez Seigneur, que vous le reconnaissez, Parce que c'est ce que Paul dit aux Corinthiens aussi, dans 1 Corinthiens 12. C'est pourquoi cette promesse faite par le Seigneur, c'est une promesse à laquelle nous devons vraiment nous pencher, donc faire tout notre possible pour que cette promesse soit à nous. C'est ça la finalité de toute chose. Notre finalité n'est pas d'appartenir à une assemblée qu'on appelle l'Assemblée de la rue de Firlan, Assemblée chrétienne de la rue de Firlan. Notre finalité, notre objectif, c'est d'être dans l'Assemblée des premiers-nés. Et cette Assemblée de premiers-nés reçoit justement la promesse du Père. Dans 1 Corinthiens 12, il nous est dit ceci, c'est bien, on peut citer le nom de Jésus-Christ, on peut le citer autant qu'on veut, mais si l'Esprit n'est pas là, ça ne sert à rien. On peut faire beaucoup de prières, mais si l'Esprit n'est pas là, ça ne sert à rien. C'est beau la généalogie, comme on dit, donc le fait de faire beaucoup de beaucoup plier les genoux. C'est beau, mais sans le Saint-Esprit, la généalogie ne vaut pas grand-chose. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre, c'est Paul. Mais commençons d'abord par Paul, 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui. Or, David l'a dit par le Saint-Esprit, puisque le Seigneur dit dans Matthieu 22 « Animé par l'Esprit, il appelle Seigneur ». L'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Et c'est une promesse certaine. Il y a un Saint-Esprit qui est répandu. Si on ne l'a pas, on doit vouloir absolument l'avoir. On ne peut pas laisser le Seigneur partir sans que nous ne recevions ce qu'il a promis. Lui rappeler sans cesse, Seigneur, c'est toi qui l'as promis. Donne-moi ce Saint-Esprit. Maintenant, il peut me dire, oui, je veux bien te le donner, mais il te manque une chose. Dis amen à ça. Mais maintenant, s'il me dit, il te manque une chose, je vais tout faire. Seigneur, enlève-moi cette chose ou bien rajoute-moi cette chose qui me manque. Parce que de moi-même, je ne peux pas le faire. Mais lui, il peut le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 6. C'est bien, nous avons déclaré la guerre aux démons et ainsi de suite. Mais prenez les armes spirituelles. Ne prenez pas des armes comme les armes de Goliath, elles ne vous serviront à rien. Quand quelqu'un vous a injuré et que vous avez trouvé une injure beaucoup plus blessante que lui, vous lui répondez par cette injure, la personne aura mal, mais le démon n'aura pas mal. Le démon, il sera content. Vous allez dire, hein, il a senti, je lui ai dit, maintenant il le sent. Oui, lui il le sent, mais le démon il ne sent pas. Bref, votre combat est inutile, parce que ce démon-là existe toujours. Amen. Hein? Donc dans Éphésiens 6, il dit ceci, au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je prie beaucoup. C'est bien de prier beaucoup, mais aie soin que l'Esprit est là. Parce que lui seul connaît les profondeurs de Dieu.
et il sait de quoi vous avez besoin. Vos soupirs deviennent des prières quand l'Esprit est là. Vos gémissements deviennent des prières. Quand en Israël, lorsqu'ils ont commencé à gémir, Dieu dit, j'ai entendu leurs gémissements. Leurs gémissements lui disaient, souviens-toi de ta promesse.
Amen. Et vous de même, nous de même ce soir, que nous, si nous avons des gémissements, que nos gémissements lui rappellent les promesses qu'il a faites. Il nous a promis, par ses meurtrissures, nous serons guéris. Il nous a promis toutes ces choses. Et une prière faite par l'Esprit, ce n'est pas une prière parce qu'on a crié, parce qu'on a hurlé. Une prière de l'Esprit, elle peut vous faire, l'Esprit, il peut vous faire hurler, tout comme il peut vous le faire dire de manière tout à fait douce. Mais vous devez reconnaître à ce moment-là, cette fois-ci, c'est l'Esprit qui m'a conduit dans la prière. Et recherchez cette conduite-là. Gloire à Dieu. Et vous allez sentir l'Esprit agir au-dedans de vous. Tout votre corps commencer à trembler, comme si on vous inondait d'huile. C'est une sensation unique. Quand vous avez prié comme cela, vous avez prié, vous étiez dans la présence du Seigneur. Lorsque cette prière est partie, vous le sentez, vous dormez, et Dieu vous répond. Et vous restez calme. Que les choses changent selon vos yeux charnels ou ne changent pas, mais vous savez une chose, Dieu a l'affaire en main. S'il a l'affaire en main, cela vous calme. Donc, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et l'apôtre dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Ne relâchez pas. Et prier pour tous les saints. Quand il dit ne relâchez pas, ça nous rappelle la parabole du juge inique. Le juge dit, oh, mais il me dérange, il fait semblant de ne pas vous entendre. Continuez à tambouriner. Il va finir par vous entendre. Et il dit, les élus savent ça. Ce qui fait les élus n'abandonnent pas. Le Seigneur dit, ses élus crient à lui nuit et jour. Alors, le frère dit, mettez de côté la conduite du Saint-Esprit et l'Église n'est plus que le monde. Donc, vous n'avez plus de différence avec le monde. L'Église n'est plus que le monde avec l'étiquette du nom de Dieu. Le monde et l'Église sont dans le même lot. Ça veut dire que Dieu n'a pas enlevé son Église du monde. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. L'Église est différente du monde. Le Seigneur le dit dans Jean 17, il dit, je ne les enlève pas du monde. Nous, on n'a pas peur de cela, comme on a dit dimanche passé. On n'a pas peur de cela. C'est le monde qui doit avoir peur de nous. Hein? Dans Jean 17, verset 14, il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » Alors il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Les préserver du malin, cela ne veut pas dire que le malin ne vienne pas vous tenter. Il viendra vous tenter. Mais vous devez toujours en sortir vainqueur. Quand bien même vous n'avez pas le don de chasser les démons, ce n'est pas grave, mais vous avez, il est aussi écrit, dans le désert, rien qu'il est aussi écrit, à chasser le démon. Vous pouvez être le plus petit des chrétiens, comme dit le frère, mais vous avez suffisamment d'autorité pour pouvoir chasser ces démons. Amen. Nous marchons avec assurance. Sans l'Esprit de Dieu, on est réprouvé, dit le frère.
dit, sans l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Parce que c'est l'Esprit qui fait que, qui nous montre que nous sommes à lui. Il dit, Jacob et Ésaü étaient tous les deux de même parents. Qu'est-ce qui a fait la différence? L'élection. L'élection a fait la différence pour comment? Vous savez, le Saint-Esprit, c'est pour les élus. C'est une promesse faite aux élus. Et c'est l'élection qui a fait la différence entre Jacob et Ésaü. Jacob n'était pas meilleur qu'Ésaü en tant qu'humain. Mais Jacob aimait ce droit qu'on donnait à l'aîné, le droit qu'il avait, et c'était un droit que Dieu lui avait donné. Chaque premier-né a ce droit-là. Et l'aîné est tenu d'user de ce droit. Vous ne devez pas renoncer au droit que Dieu vous a fait, vous a donné. Vous devez les prendre, vous devez les assumer. Et si Dieu vous a donné ce droit, ne commencez pas à courir, Seigneur, je ne suis pas l'aîné de la famille. Non, quand Dieu parle de premier-né, il sait de quoi il parle. Vous pouvez être le dernier de la famille, mais le droit d'aînesse de Dieu, c'est vous qui l'avez. Hein. Oui. Et vous devez aimer ça. Frère Abraham dit, Jacob aimait ce droit plus que tout. Il mentait beaucoup peut-être, il trompait les gens, oui, c'est vrai. Mais il aimait ce droit-là. Et il aimait tellement ces choses que... Et il aimait beaucoup les bénédictions divines. Quand il s'est battu avec l'ange, ils se sont battus, à l'aube, l'ange dit, bon, laisse-moi partir. Il s'agrippe à lui, il dit, je ne te lâche pas. Il le voulait. Dieu veut des Jacob encore aujourd'hui. Des gens qui ne lâchent pas. Et à ce moment-là, Jacob devient différent. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus le même trompeur. C'est quelqu'un de différent. Ah, on est en train de nous refaire petite santé ici. Ce qui est très bien. Mais ça, ça ne nous change pas. Nous sommes toujours la même assemblée avec ça. Mais si, même si l'ancienne couleur jaune était restée là et que Dieu répandait son esprit ici, les choses seraient différentes. Les choses sont différentes. Maintenant, si c'est en plus avec ça, eh bien, tant mieux. Amen. Que nous soyons cette Église du Nouveau Testament que le Seigneur est en train de bâtir. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence entre l'Église et le monde. Peu importe, je lis là, que vous vous dites chrétien, ça, n'importe qui peut le dire. Il s'agit de savoir si vous avez ou non l'Esprit de Dieu en vous. Ça va? Et si l'Esprit de Dieu est en vous, mais vous ne vous imaginez pas l'immense avantage que vous avez. Romains chapitre 8. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et quand vous criez avec cet esprit d'adoption « Abba Père », l'esprit vous dit les choses qu'il y a dans la maison de votre Père. S'il y a de la guérison, il va vous dire qu'il y a de la guérison. S'il y a de la délivrance, il vous dira qu'il y a de la délivrance. Tout ce dont vous aurez besoin s'y trouve. Et le Saint-Esprit, hein, n'est-ce pas, il est prêt, n'est-ce pas, à vous aider pour que vous puissiez aller vous en saisir. Si vous êtes faible, eh bien, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais lui, il sait. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Et c'est ainsi que tout ce qui peut arriver, que les vents soufflent, vous allez chanter, hein, verset 28, comme il le dit. Si le vent souffle, il travaille pour mon bien. Qu'est-ce que je fais? J'enfonce mes racines. Quand la tempête gronde, elle travaille pour mon bien. Pourquoi? Je m'entraîne à faire la guerre. Parce que nous sommes là des guerriers où nous devons aller combattre. Et Jésus, le Seigneur a dit à Gédéon, je serai avec toi. Ne dites pas, ah, tout le peuple viendra avec moi, je vais prendre 30 000 hommes. Dieu dit, non, non, c'est pas ça que je te dis. 30 000, c'est beaucoup trop. On risque de vous mentir, de vous tromper que c'est parce que nous étions 30 000. Non. Ceux qui ont peur, qu'ils s'en aillent. Et ils s'en sont allés. Ils regardent, ils disent, il y en a encore beaucoup. Fais-les boire, et moi je vais te dire qui il faut prendre. Et ils sont partis boire et ils pensent ceux-là. Ils étaient 300. Et avec 300, ils ont battu des milliers d'hommes. Ces hommes-là même qui semaient la terreur au milieu d'eux. Israël, devant Madian, comme Dieu a dit, l'Éternel a dit à Gédéon, « Je serai avec toi. » Maintenant, Madian, quand il est revenu après pour venir chercher le fruit de la récolte des Israélites, ils pensaient que Israël était toujours le même Israël. Or, maintenant, c'était un Israël différent. Un Israël différent où maintenant l'Éternel était parmi eux. Ils sont venus, ils ont reçu un de ces coups dont ils se sont souvenus. Et les rôles ont été inversés. Donc, c'était avant, c'était l'Israël qui était dominé et qu'on dépouillait. Maintenant, c'est Israël qui dépouillait Madian. Les rôles sont inversés. Amen. Satan a dépouillé les hommes de beaucoup de choses. Mais à la croix, Jésus a changé les choses. C'est lui qui les a dépouillés. Il les a complètement dépouillés. Et l'esprit qui l'a conduit aujourd'hui vous est promis. Amen. Il est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les a appelés, les appellera. Donc, souvenez-vous de cela. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui fait la différence entre mon ancienne vie et ma vie actuelle? C'est l'esprit de Dieu. Si je suis toujours le même qu'avant, toujours le même colérique qu'avant. Non, Dieu est lent à la colère. L'Esprit de Dieu est lent à la colère. L'homme est sans miséricorde. L'Esprit de Dieu est miséricordieux. les attributs de Dieu. Dieu lui-même, il nous dit, le Seigneur lui-même nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Oui. Non, tel que nous étions avant, nous ne le sommes plus aujourd'hui. Et nous avançons, jusqu'à devenir, n'est-ce pas, semblable à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai été pratiquement aussi court que frère Nestor une fois. Ma fille, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a dit, ah, il faut suivre l'exemple. Voilà, frère Benoît, tu lui diras, j'ai suivi l'exemple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu tout-puissant, venons à toi ce soir, reconnaissant que tout ce formalisme qui habite aujourd'hui dans les églises, nous n'en voulons pas. Nous voulons vraiment une église vivante, conduite par le Saint-Esprit. Oh Dieu, une église, une assemblée locale où le Saint-Esprit règne en maître, où il prêche, où il écoute pour nous, où il interprète pour nous. Toute la parole que tu as donnée. Car au commencement, c'est l'Esprit qui a tonné, c'est l'Esprit qui a parlé, qui a rappelé à l'existence toutes ces choses qui nous entourent. Et c'est sur lui que nous comptons. Oh, il a voulu faire de nous des hommes et des femmes semblables à la ressemblance du Dieu vivant. Oh Père, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique, mais il s'agit de cette ressemblance spirituelle. Père céleste, nous nous en tenons à toi ce soir. Oh Dieu, que tu nous assistes, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Bénis tes enfants, Père, alors que nous, Dieu, alors que nous sommes assemblés, alors que le rassemblement se termine, oh, fasse que nous puissions rentrer avec ces sentiments merveilleux de joie au-dedans de nous, ayant entendu ta parole. Oh Dieu, sachant qu'aujourd'hui encore, le Saint-Esprit continue à être donné à ceux qui te le demandent. Oh Dieu, tu le donnes à ceux qui t'obéissent. Oh, rends-moi obéissant. Oh, mais nous savons que lorsque nous demandons l'obéissance ne vient pas comme un paquet dans nos cœurs. Oh Dieu, Jésus-Christ lui-même, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses que nous souffrons, puissions-nous apprendre à t'obéir, à rester ferme. Oh Dieu, à rester ferme en marchant avec toi. À accomplir ta volonté, à faire ce qui te plaît. Oh Père, nous vraiment, c'est à toi que nous nous attendons encore ce soir. Et conduis-nous, Père, selon ta conduite, selon ta volonté. C'est sur toi que nous comptons, oh Père, et nous te remercions. Maintenant, c'est une semaine un peu chargée pour certains dans notre assemblée locale, que nous puissions tout simplement être une aide pour tes enfants, que nous puissions aider dans la prière afin que les choses qu'ils ont à faire puissent encore rendre témoignage de toi. C'est cela qui nous préoccupe. C'est ce que nous voulons, que cela soit vraiment quelque chose qui nous rappelle que des noces arrivent, nous attendent, des grandes noces, les noces de l'agneau, auxquels nous sommes tous conviés. Nous te demandons de rester avec tes enfants qui vont répéter, que l'Esprit les conduise dans la répétition, que l'Esprit les conduise aussi dans la prestation lorsqu'ils auront à prester, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Bénis chacun de tes enfants, le chemin du retour entre tes mains, oh Dieu, quelle que soit l'heure à laquelle nous quitterons ces lieux, que tu nous accompagnes, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous te demandons tout cela
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.